Bien, ben, merci de ces éloges. Je ne sais pas si je les mérite. Et bonne année aussi à tous. Le gastronome au Moyen-Âge, c'est le titre d'un livre que m'ont commandé les presses universitaires de France pour la collection Le Nœud Gordien. Lorsque Madame Bonnefoy m'a fait l'honneur de m'inviter à prononcer une conférence pour les 10 années de ce cycle sur les sciences et les techniques, je pensais naïvement qu'au moment de cette conférence, c'est-à-dire aujourd'hui, le livre en question serait écrit. Les exigences du service de la République, pour dire les choses comme ça, en ont voulu autrement. Et c'est donc un dossier très ouvert et encore largement à explorer que je vais vous présenter ici. Il procède plus par exemple, j'ai envie de dire même par exemple là, que par synthèse. Avant toute chose, il faut insister, je crois, sur le paradoxe qu'il y a à vouloir parler du gastronome au Moyen Âge, car c'est un personnage pour lequel cette époque reculée n'a pas de nom, et dont beaucoup, alors, pensent qu'il ne devrait même pas exister. Et pourtant, le gastronome se trouve partout dans les textes médiévaux. C'est à travers ces textes de toute nature, textes littéraires comme scientifiques, normatifs comme pratiques, que nous pouvons examiner les diverses manifestations que revêt le comportement gastronomique, je n'ose dire l'activité gastronomique, depuis la recherche des meilleurs produits et des saveurs les plus rares, jusqu'à l'établissement et la mise à jour des réputations, en passant par l'expérimentation de recettes inédites dans le cadre de cercles à la fois gourmands et érudits. On trouve tout cela au Moyen Âge. Il se pourrait bien, au fond, que le gastronome ait été, du moins au XIVe et XVe siècle, l'un des personnages influents de la société médiévale. Était-il en mesure d'orienter les goûts de ses contemporains? C'est possible. En tout cas, il pouvait, ça on en est sûr, dicter ses goûts à son médecin, et ça n'est pas une mince affaire. Donc, le gastronome est au Moyen Âge un personnage sans nom. C'est pour ça qu'il faut commencer par là. D'abord, tout simplement parce que le mot gastronome n'existait pas. Il est tout récent, à l'instar de celui de gastronomie en français, qui, sauf un apax au XVIIe siècle, n'est pas antérieur à 1800. Or, gastronomia était en revanche attesté dans l'Antiquité, plus précisément dans l'Antiquité grecque. Ce n'était pas, il est vrai, un terme très courant. La quinzaine de fois où on le rencontre, c'est en lien direct ou indirect avec l'ouvrage d'un certain Archestrate, sicilien du IVe siècle avant Jésus-Christ, et auteur d'un poème que certains commentateurs dénomment, durant l'Antiquité, justement, gastronomia. Autrement dit, la classification, nomia, hein, d'un verbe grec qui signifie distribuer. L'agronomie, par exemple, c'est d'abord le calendrier et la typologie des cultures, hein. Donc, la classification, nomia, de la nourriture, hein, de gaster, le ventre, l'estomac, d'où la faim, la nourriture. Titre non stabilisé, du reste, comme celui de beaucoup d'œuvres anciennes. D'autres commentateurs appellent l'œuvre d'Archestrate Gastrologia, enquête sur le ventre ou la nourriture. D'autres encore Deipnologia, enquête sur le dîner. Ou encore Opsopoia, art de la cuisine. Voire Edupateia, c'est-à-dire vie de plaisir. Comme ces autres appellations, gastronomia répondait probablement à une intention comique. Donner un titre scientifique à une œuvre littéraire traitant de réalités très terre-à-terre. Et de fait, Archestrate utilisait l'hexamètre dactylique, théoriquement réservé à la poésie épique, et son poème s'ouvrait sur une proclamation ronflante, dont on reconnaîtra l'origine, faisant de mon savoir montre à la Grèce ancienne, et suit ensuite toute une série de recettes. Car par ailleurs, la gastronomia se présentait bel et bien comme un recueil de prescriptions culinaires. Mais au fond, peu importe, car le Moyen-Âge l'a totalement ignoré. Comme la quasi-totalité de la littérature culinaire grecque, ce traité a disparu corps et biens. On n'en a conservé que des extraits à travers le Banquet des Sophistes, compilation de l'égyptien Athénée de Naucratis, qui ressurgit en Occident au milieu du XVe siècle, c'est-à-dire une fois le Moyen-Âge quasiment passé, on va dire, lorsqu'un manuscrit grec en aboutit à Venise, dans la bibliothèque du cardinal Bessarion, grand protecteur d'humanistes. Eût-il été connu auparavant, le texte d'Athénée n'eût guère pu être utilisé par le monde latin médiéval, qui ignorait, comme vous le savez, à peu près entièrement le grec, hein, sauf quelques exceptions. Il y eut certes de nombreuses traductions depuis le grec au XIIe et XIIIe siècle, mais elles se limitaient à la scientia, c'est-à-dire à la philosophie, notamment la philosophie naturelle, à la médecine, à l'astronomie, etc., tout ce dont vous a parlé sans doute Daniel Jacquard, mais qui ne concernait nullement cet art mécanique qu'était, au mieux, la cuisine. D'ailleurs, les chrétiens occidentaux auraient-ils pu goûter la gastronomia d'Archestrate ? Sans doute pas, car le mot qui désignait au plus près ce qu'on pourrait appeler le comportement, l'orientation comportementale, presque cognitive, j'ai envie de dire, du gastronome était, dans le Moyen-Âge latin, non pas celui de gastronomia, donc qui n'existait pas, mais celui de gula. Or, la gula, c'était un péché capital, c'est-à-dire une de ces tendances perverses, comme ça qu'on pourrait traduire, hein, péché capital, il y en avait 7 au total, vous le savez, qui entraînait des péchés bien réels, de toute nature, hein, des délits que l'on commettait à l'égard de son prochain. Gula, c'est la gorge. Un topos de l'éthique à Nicomaque, qui va exercer sur la morale occidentale une influence majeure à partir du XIIIe siècle, fait place dans la liste des plaisirs que l'on peut tirer des sens à celui que l'on éprouve en laissant passer les aliments longuement dans sa gorge. Et Aristote d'expliquer que l'homme qui le ressent, avec volupté, souhaiterait avoir le cou aussi long que celui d'une grue, afin de faire durer sa volupté le plus longtemps possible. Tout autant qu'au goût, le plaisir de manger est en effet lié au toucher, qui, dans la hiérarchie des sens, occupe la position la plus basse, et ceci constamment. C'est donc bien une appellation d'avance dépréciative qui a été attribuée au vice touchant la nourriture. Pas immédiatement, du reste, car dans les plus anciennes typologies de péchés capitaux, ce qu'on appelle les septenaires, parce qu'il y a 7 péchés capitaux, ce vice est dénommé gastrimargia, qui renvoie donc, encore une fois, au ventre, à l'estomac, à l'appétit. Mais la goula, qu'on traduit aujourd'hui un peu paresseusement par gourmandise, est bien davantage que de la voracité. C'est la volonté non seulement de manger plus, mais de manger mieux. Dans la pièce intitulée « La condamnation de Banquet », qu'écrivit au début du XVIe siècle, Nicolas de la Chesnaye, cette dualité est incarnée dans 2 personnages différents. Il n'est pas inutile de rappeler ce qu'est cette œuvre. L'auteur en est un conseiller des rois de France, Louis XI et Louis XII, qui fut aussi leur maître d'hôtel. Comme l'écrivent plaisamment les éditeurs de la pièce, il connaissait la cuisine et le tribunal. De fait, sa pièce se présente en 2 moments, 2 actes. Le premier étant la narration d'un délit qui est un délit gastronomique. On va le voir. Tandis que le second raconte le procès qui le réprime et rétablit le bon ordre des choses, le bon ordre moral. Voici donc trois joyeux compagnons. Dîner, souper et banquet. On est en effet dans le cadre de l'allégorie. Donc, dîner, souper et banquet qui offrent trois repas homonymes, un dîner, un souper, un banquet, à de joyeux compagnons. Passe-temps, je bois à vous, etc. Tels sont leurs noms. Ainsi qu'à d'accorte demoiselle, bonne compagnie et ses amis, gourmandise, friandise et accoutumance. Regardons d'un peu plus près gourmandise et friandise. Autant gourmandise est grosse et recherche la quantité, elle veut, dit l'auteur, le gras bœuf et poulet bien nourri, autant friandise préfère la qualité. Elle se contente au déjeuner d'un petit pâté pourvu qu'il soit chaud et friand, c'est-à-dire délicieux, goûteux. Autrement dit, le premier gastronome que nous rencontrons ce soir, c'est une gastronome, même si c'est, répétons-le, une allégorie en l'occurrence. Or, cette incarnation de la goula la plus sournoise au fond, celle qui se pique de raffinement, parce que l'autre on peut facilement la repérer, celle qui est dans l'ordre de la voracité, bien. Donc, cette incarnation de la goula la plus sournoise finit tout aussi mal que celle de la voracité la plus brutale. En effet, les repas qu'on leur offre, ainsi qu'à leurs amis, sont un piège. Les trois gredins que sont dîner, souper et banquet ont en effet demandé à un groupe de séides portant le nom des maladies qui guettent les bons mangeurs, depuis apoplexie jusqu'à goutte, en passant par colique et gravelle, c'est-à-dire calcul rénal. Donc il a demandé à ces séides de frapper leurs invités au souper. Notez bien, le dîner, je le rappelle, c'est le repas de milieu de journée, celui qui correspond à notre déjeuner. Tandis que quand on dit déjeuner, c'est le petit déjeuner, on est bien d'accord. Donc il les frappe au souper et de les tuer au banquet. Un certain nombre de convives tombent, victimes des coups. Ce sont les plus compromis, dont, bien sûr, gourmandise et friandise. Les survivants, parmi lesquels accoutumance, intentent un procès aux trois sinistres larrons devant Dame Expérience, elle-même entourée de ses suppôts, sobriété, clistère, saignée et diète. Le verdict ne fait aucun doute. Pris après consultation d'experts particulièrement prestigieux, Hippocrate, Galien, Avicenne et Averroès, autrement dit les autorités médicales, ce verdict gracie souper. Il le gracie, certes, parce que, dit l'auteur, on ne peut vivre sans faire deux repas par jour, mais souper est relégué à 6 lieues de dîner. Car il faut, précise l'auteur, 6 heures pour digérer le dîner. Quant à banquet, lui, il est condamné à mort et c'est diète en personne qui l'étrangle. La morale est sauve, on s'en doutait en écoutant le sermon qui précède la pièce, dirigé contre ceux qui veulent toujours expérimenter des choses nouvelles. Il est prononcé par un docteur prolocuteur, donc qui parle avant les autres, qui évidemment prêche la tempérance. Tout d'ailleurs comme l'auteur, Nicolas de La Chesnaye, dans 2 ouvrages antérieurs, La nef de santé et Le gouvernail du corps humain. Pourquoi ce mauvais sort réservé à friandise et gourmandise? Parce qu'elles incarnent les deux facettes d'un même vice qui est, aux yeux des contemporains, l'un des plus mauvais qui soit. Il faut bien comprendre ce que l'on entend au Moyen-Âge par péché capital. Il ne s'agit pas d'un péché particulièrement grave, pas nécessairement, ni nécessairement d'un péché mortel qui vaut damnation. Il s'agit d'un vice. Il s'agit d'une tendance fondamentale de la personnalité, plus qu'un simple défaut et presque une perversion. Tendance fondamentale de la personnalité qui est susceptible d'entraîner des péchés bien concrets. L'excès de nourriture et l'excès de vin, car l'ivresse est partie prenante de la goula, alourdit l'esprit et la langue, entraînant de regrettables débordements. Alors bien sûr, on pense à la concupiscence et à la luxure, le péché de chair ayant évidemment partie liée avec la bonne chair, mais on pense aussi au mensonge, à la médisance et pire que tout, au blasphème. Autant de péchés de bouche dans tous les sens du terme. Quand elle ne conduit pas cette goula, le goulosus, le gourmand, le gastronome avant l'heure, à parcourir le monde pour se procurer les produits les plus rares, à engager à prix d'or les cuisiniers les plus fameux en quête de saveurs inédites, et excessivement raffiné, vous savez que le mot médiéval latin pour saveur et le mot pour sauce sont les mêmes, sapor, hein, donc là il y a un lien très fort, car Thomas d'Aquin l'a bien décrit dans la Somme de théologie, où l'on trouve un ensemble de questions qui constituent un véritable petit traité d'anthropologie alimentaire. Ce qui construit le péché de la goula, quelles que soient ses manifestations, donc quantitatives ou qualitatives, dans tous les cas, c'est la démesure. La goula n'est certes pas le seul péché capital. Comme vous le savez, il en existe 6 autres. Mais il est des théologiens, pas forcément très nombreux, pour penser que c'est le plus grave de tous. Certains l'identifient même comme le premier de tous, celui qui a entraîné tous les autres, autrement dit le péché originel. Tout n'a-t-il pas commencé par la consommation d'un fruit, certes celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Saint Augustin, qui a exercé une influence considérable sur le Moyen-Âge, a eu beau tonner contre cette interprétation très matérialiste du péché originel, dans lequel lui, il voyait plutôt, bien sûr, un péché d'orgueil, un péché de résistance donc aux volontés du Très-Haut. Donc saint Augustin a eu beau tonner contre cette interprétation, elle a continué à séduire des esprits plus simples. On comprend donc qu'au Moyen-Âge, le gastronome n'est pas en odeur de sainteté. Il n'est nullement question qu'il puisse déclarer publiquement sa passion, ni bien entendu discourir sur elle. Un discours gastronomique articulé, ayant pour but de décrire les meilleurs moyens aptes à satisfaire le plaisir de manger est chose impensable. Il deviendra possible au milieu du XVe siècle avec le premier véritable traité gastronomique occidental, c'est-à-dire le De Honesta Voluptate de Platina. Auparavant, au Moyen-Âge donc, le discours gastronomique ne peut s'exprimer que de manière subreptice, détournée. Revenons sur la condamnation de Banquet, qui, au début du XVIe siècle, est encore l'héritière de cette pratique de détournement. Entre le sermon moralisateur qui ouvre la pièce et le procès édifiant qui la conclut, Nicolas de la Chesnaye décrit par le menu, c'est le cas de le dire, hein, pas moins de 3 repas, comprenant chacun plusieurs services, eux-mêmes composés de nombreux mets, accommodés à la dernière mode. Par exemple, à la sauce Robert ou à la sauce Madame, qui sont des sauces particulièrement à la mode, effectivement, à la fin du XVe siècle. Pour avoir supervisé la table royale, Nicolas de la Chesnaye est au courant des recettes de pointe dont il peut livrer le détail, dont il peut, pardon, lire le détail dans les livres de cuisine. C'est du reste pour les maîtres d'hôtel des grandes maisons aristocratiques que le genre du livre de cuisine est apparu, à mon avis. Autrement dit, on a là ce que j'appellerais volontiers le dénigrement complaisant, où les délices gastronomiques sont convoqués pour être mieux condamnés, où la goula est vaincue au final, mais après avoir eu largement le temps de s'exprimer. Tout médiéviste a eu affaire à cette description tatillonne des vices de la table et des plaisirs qu'il recouvre. Elles empruntent les voies les plus diverses. Les peines de l'enfer, chez Raoul de Houdinque, la digression gratuite dans le roman du comte d'Anjou, où la perspective de devoir manger la maigre pitance que lui offre une pauvre vieille conduit l'héroïne à regretter les mets exquis qu'on lui servait au château de son père. Suit une longue plainte, une longue déploration gastronomique de plus de 60 vers, où l'on retrouve tous les plats des livres de cuisine contemporains. Un collègue de Jean Maillard, l'auteur donc du roman du comte d'Anjou, trouva ce morceau tellement à son goût qu'il l'intégra donc au fameux roman de Fauvel dans une interpolation très connue. Cette contamination de la littérature par la thématique culinaire, elle peut être vue au fond comme une preuve de la poussée du discours gastronomique qui s'introduit partout où cela est possible, dans toutes les interstices possibles des textes. Mais elle traduit aussi, très concrètement, l'existence de gastronomes, au fait des denrées, des dernières nouveautés en matière de goût, et qui peuvent en apprécier l'énumération dans un roman ou au théâtre. Derrière les débordements gastronomiques attribués à des gastronomes que l'auteur forcément condamne, on devine de vrais gastronomes qui, eux, s'accommodent parfaitement de leur passion. Je voudrais maintenant essayer de pointer quelques manifestations concrètes de comportement gastronomique, d'essayer de repérer, au fond, des gastronomes à l'œuvre. Je les trouverai d'abord dans une œuvre, donc dans la réalisation la plus fameuse de Dante, la Commedia, dite divine, depuis, je crois, le XVIe siècle, Claudio me contrôle. Ce long poème est construit, on le sait, autour des 3 lieux de l'au-delà. Enfin, il y en a d'autres, mais bon, autour des 3 principaux. L'enfer, le purgatoire et le paradis. La Gola, c'est écrit en italien, hein, y a évidemment sa place, tant en enfer que dans le purgatoire. Dans ce dernier, 2 chapitres sont tout entiers consacrés aux gourmands, aux golosies, je dis gourmand, hein, mais ça devrait être c'est un terme plus compliqué qu'il faudrait utiliser. Le poète y rencontre, par exemple, un pape, Martin IV, que la rumeur, colportée par les commentateurs de Dante, accuse d'être mort d'une indigestion d'anguilles de Bolsena, cuisinée ou noyée, disent certains, dans la Vernaccia, c'est-à-dire un vin italien. Les commentateurs de Dante, qui sont légion, dès le début du XIVe siècle, broderont sur cette détestable habitude qui associe un mets réputé avec un vin qui ne l'est pas moins. Ils broderont encore davantage sur le chant 29 de l'Enfer, qui n'est pas consacré aux gourmands, qui s'intègre dans une longue série de chants où sont décrits les falsificateurs de tout poil, ruffians, séducteurs, simoniaques, devins, jeteurs de sorts, prévaricateurs, hypocrites, voleurs, conseillers perfides, semeurs de discorde et enfin faussaires. C'est à propos de l'un d'entre eux que se développe le passage que je m'en vais vous lire dans la traduction, dans une des traductions les plus courantes, celle du livre de poche, traduction de Cialom, je crois. Bien. Et je dis au poète, donc il y a quatre tercets, et je dis au poète, deux points, ouvrez les guillemets. Y eut-il donc jamais gens plus légers que les Siennois ? Pas même les Français, non, tant s'en faut. Dante n'aime pas les Français, mais encore moins les Siennois. Bien. Sur quoi, l'autre lépreux qui m'entendit me répliqua, exceptes-en l'estriche, donc ça c'est la traduction du Cialom en strica, qui sut toujours modérer ses dépenses. Et Nicolo, qui fit la découverte de la riche coutume du girofle dans le jardin où germe cette graine. Et la bande avec qui Caccia d'Asciano, sut dissiper ses grands bois et ses vignes, et l'éblouit, la Baliato, montrer tant de bon sens. Bon, comme toujours, chez Dante, c'est particulièrement obscur, bien sûr. Ce passage met donc en scène quatre personnages. Strica, dei Salimbeni, Podesta de Bologne, entre 1276 et 1286, qui est présenté comme modéré dans ses dépenses, si l'on lit de manière littérale le texte. Un certain Nicolas, qui aurait découvert une manière coûteuse d'utiliser le clou de girofle. Les deux derniers, Caccia et Abbagliato, Abbagliato c'est le surnom de Bartolomeo dei Folcacchieri, auraient appartenu à une bande, une brigata, c'est le terme qui est employé, qui a conduit au moins l'un d'entre eux à dépenser tous ses biens. Voilà à peu près ce que dit le texte de Dante, et encore en lui, en commençant déjà à l'interpréter. Autour de ce peu de choses, les commentateurs vont s'en donner à cœur joie et construire peu à peu une légende, qui n'est sans doute pas sans fondement. La légende d'un cercle gastronomique, la Brigata Spendereccia. Il s'agit d'abord pour les commentateurs d'identifier le Nicolas du deuxième tercé. Certains penchent pour un Salimbeni, une famille de riches banquiers. D'autres pour un Buonsignori, qui est une compagnie de banque, non moins riche, sinon plus, dont la faillite retentissante à la fin du XIIIe siècle entraîna l'affaiblissement durable de Sienne. Niccolò dei Buonsignori était le chef du parti gibelin de Sienne, c'est-à-dire du parti pro-impérial, pour simplifier. Il est resté célèbre chez les chroniqueurs siennois pour avoir organisé de somptueux banquets lors de son entrée en chevalerie en 1279, c'est probablement son père qui les a organisés pour lui d'ailleurs, et il fut ensuite podestat à Padoue, où il donna des fêtes magnifiques lors du carnaval de 1300. Mais quelle est donc, là, je redis, riche coutume du girofle dont il est question, qu'il est censé avoir découvert? Là aussi, les commentateurs ont rivalisé d'imagination. Certains prétendent que Nicolas faisait mettre les clous de girofle dans les rôtis, les sauces ou les anguilles farcies. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien d'étonnant. Même si effectivement le clou de girofle est une épice à l'époque extrêmement coûteuse, puisqu'elle vient, comme vous le savez, vraiment de très très loin, des Moluques. Donc même si le clou de girofle est une épice extrêmement coûteuse, il est bien connu en Occident depuis le très haut Moyen-Âge, et son utilisation en cuisine n'a rien d'exceptionnel. Plus extravagante est l'interprétation proposée par d'autres commentateurs, selon lesquels Niccolò aurait fait rôtir des faisans et des chapons, c'est-à-dire des volatiles, qui sont alors les produits les plus coûteux, donc des faisans et des chapons sur des braises faites de girofle. Là, effectivement, ça revient un peu plus cher. Enfin, les commentateurs de Dante s'intéressent à la nature et à la configuration de la Brigata, à laquelle plusieurs des personnages sont censés appartenir. Deux au départ, si l'on suit littéralement le texte de Dante. Il faut bien comprendre ce qu'est une brigata dans l'Italie de la fin du Moyen-Âge. Le terme est synonyme de compagna, qui désigne la compagnie commerciale d'abord. Et certains commentateurs latins ont traduit d'ailleurs brigata par societas. Enfin, ont interprété brigata par societas ou sodalitas, qui sont des termes effectivement qu'on utilise notamment pour les sociétés commerciales. Ce terme de brigata, compagnia, societas, sodalitas, n'est pas un hasard. La brigata dite prodigue, c'est ça le sens de spendereccia, qui dépense, mais de manière excessive. Donc la brigata dite prodigue, à laquelle, au fur et à mesure des commentaires, vont finir par être amalgamer tous les personnages cités, y compris justement le fameux Nicolas et son clou de girofle, enfin et ses clous de girofle. Donc cette brigata dite prodigue fonctionne comme une société commerciale, à cette seule exception près que son but n'est pas de gagner de l'argent, mais d'en dépenser, et le plus possible. Et les commentateurs de détailler avec un soin maniaque toutes les expressions de la prodigalité la plus ostentatoire. La somptuosité de l'apparat, manche sur des assiettes, enfin pas des assiettes, mais des tailloirs en or, le gaspillage, on fait frire des florins. La recherche culinaire aussi. On assiste à une accumulation progressive de traits qui finissent par résumer en une gerbe un comportement alimentaire ostentatoire et recherché, un comportement au final scandaleux. Au fond, on a affaire à une bande de blousons dorés qui pratiquent la provocation. Hein ? Ils sont 12 d'ailleurs, comme les apôtres. Parmi ces traits de prodigalité ostentatoire figure l'idée avancée par un commentateur, Francesco d'Abuti, à la fin du XIVe siècle, l'idée que la bande prodigue a inventé de nouveaux plats. Blanc manger, bras mangieri, et fritelle ou baldine, entre autres. Francesco d'Abuti nous dit, et d'autres, sans dire lesquels. Et que sur ces plats, à propos de ces plats, leur cuisinier, Cuoco, hein, écrivit un livre. Cette assertion a fait couler beaucoup d'encre parmi les spécialistes de la cuisine médiévale, qui ne sont pas si nombreux, mais qui écrivent beaucoup, qui ont fait le lien avec une tradition manuscrite dont le témoin le plus ancien est précisément un manuscrit siennois, même s'il est conservé à Florence, un manuscrit siennois qui date de 1338-1339. Donc on est quand même après les événements. Cette tradition, donc manuscrite, se caractérise par un trait, enfin plusieurs traits spécifiques, mais notamment le fait que le texte intègre un grand nombre de recettes prévues pour 12 convives. 12 convives qualifiés selon les cas de riches et gourmands ou de joyeux. Fait exceptionnel, cette lignée indique précisément les ingrédients et leur quantité. Et ce qui était tout à fait rare parmi les livres de cuisine médiévaux. Et décrit aussi de manière très détaillée les procédures. Contrairement aux livres de cuisine que j'évoquais tout à l'heure, qui sont issus des professionnels, des cuisines aristocratiques, il pourrait s'agir là, au fond, d'un livre pour amateurs raffinés, qui font volontiers la cuisine et qui ont envie d'avoir un aide-mémoire le plus précis possible. Ce texte, profondément transformé, s'est largement diffusé, enfin, quand je dis largement, en matière de livres de cuisine, hein, c'est 10 manuscrits, c'est pas non plus énorme, mais vous savez qu'il y a une déperdition extrêmement importante de ce genre de texte. Donc, ce texte profondément transformé s'est largement diffusé dans toute l'Italie, en particulier dans la région vénitienne, où on a plusieurs témoins. Et dans cette branche vénitienne, mon ami, la regrettée Odile Redon, a repéré des recettes à connotation clairement gibeline. Des fritelle di imperatore magnifici. La torta di re Manfredo, da fava fresca. Donc Manfred, je rappelle, c'était un des innombrables bâtards de Frédéric II, hein, qui a tenu le parti gibelin pendant quelques années. Encore une autre torta Manfreda. On peut se demander si ces recettes ne sont pas liées au passage de Niccolò dei Buonsignori, par exemple à Padoue. Des deux recettes citées par le commentateur, vous vous souvenez, le blanc manger et les fritelle ubaldine. La première n'a rien d'original. Le blanc manger, on en trouve dans toute l'Europe, avec des variantes, mais on trouve partout. En revanche, les fritelle ubaldine sont plus intéressantes. La famille des Ubaldini est en effet une famille gibeline. Et Ubaldino della Pilla est cité parmi les golosi. On dit même qu'il est très golosus, lui, en l'occurrence. Hein. Et goloso, pardon. Il est cité parmi les gourmands du purgatoire qui, dit Dante, rongé par la faim, mâche ta vide. Ça, c'est une punition classique, effectivement, des gourmands. Autrement dit, la Brigata Spendereccia n'est pas seulement un cercle gastronomique, c'est aussi un cercle politique. Le contexte siennois de la fin du XIIIe siècle est celui où les grands, les magnats, gibelins, ont été exclus du pouvoir en faveur du peuple guelfe. La Brigata Spendereccia peut donc être vue comme une provocation anti-guelfe et anti-populaire. Le gastronome existe donc bel et bien au Moyen-Âge, même s'il se manifeste de manière détournée ou provocatrice. Il existe tellement qu'il est susceptible de résister aux médecins qui, au Moyen-Âge, comme aujourd'hui, et peut-être encore, au fond, davantage au Moyen-Âge, prétendent vouloir contrôler la nourriture de leurs patients. Dans un petit traité consacré à l'alimentation des malades, qui remonte probablement au tout début du XIIIe siècle, vers 1200, le médecin salernitain Petrus Musandinus donne ainsi des conseils culinaires qui permettent d'assurer aux malades une diète appropriée tout en satisfaisant leur goût. Au cas où le patient, c'est un traité qui s'adresse essentiellement aux malades atteints de fièvre, donc qui ont un excès de chaleur et pour lesquels il faut utiliser des mets froids. Ça ne veut pas dire des mets froids au sens de leur température, ça veut dire des mets froids au sens de leur qualité diététique. Donc, au cas où le patient dégoûté des laits d'amande et des salades qu'on lui sert quotidiennement voudrait absolument manger de la viande, nourriture échauffante, qui lui est donc théoriquement interdite, on doit utiliser certaines parties, notamment des parties de volatiles, les coups et les ailes des poulets, refroidis dans du jus de grenade, du verjus ou du vinaigre. Cette volaille doit être cuite énormément, enfin jusqu'au point que la chair se détache des os. Et ensuite, cette chair est réduite en purée au mortier. Il y a donc tout un processus pour rendre cette nourriture théoriquement interdite, désirée, pour la rendre tout à fait acceptable d'un point de vue diététique. Mais dans cette concession au désir du malade, c'est bien une préoccupation gastronomique que l'on lit. Elle conduit même à l'élaboration d'une cuisine non moins raffinée que la cuisine des gens sains. Donc vous voyez comment les exigences du gastronome médiéval s'introduisent jusque dans la médecine. Et je m'arrêterai là, puisque j'ai commencé en fait à 18h10. Voilà. Je suis désolé pour les gens qui ne savaient pas que ça commençait à 18h. Donc voilà, on refera une séance de rattrapage.